Bonsoir, comment allez-vous? Bientôt la rentrée. On aime commencer l'année. Les débuts ont le pouvoir d'effacer tout ce qui nous a déplu par le passé. On recommence à zéro. On met beaucoup d'espoir dans une nouvelle année. Comme dans un cahier neuf, beau, propre, brillant. On va y écrire de belles choses. On a l'impression qu'à partir de maintenant, tout sera facile puisqu'on l'a décidé. C'est le phénomène des bonnes résolutions. Si on écrivait sur la première page de notre nouveau cahier, cette phrase du chapitre 8 du Yi Qing. Laissons l'harmonie, la joie et l'élégance donner le ton. À moins, si vous vous sentez plus romain que chinois, que vous ne préfériez celle de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on a peur, c'est parce qu'on a peur qu'elles sont difficiles.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 8 ans et je voudrais savoir à quoi ça sert d'avoir peur. Au revoir.
Merci Alice d'avoir posé cette question que nous sommes quelques-uns à nous poser. À quoi ça sert d'avoir peur, demande Alice, Fabrice Midal.
Ça sert à être vivant. Évidemment, c'est un peu paradoxal, mais c'est profondément vrai. Je vais vous raconter une anecdote qui est très connue. Il y avait une jeune comédienne qui voyait Sarah Bernhardt avant qu'elle entre en scène, et Sarah Bernhardt avait peur. Et la comédienne lui dit « Oh, mais je ne comprends pas, moi je n'ai jamais peur. » Et Sarah Bernhardt lui répond « Ça viendra avec le talent. »
Et c'est tout
à fait, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on n'a pas peur, on ne touche pas vraiment son cœur, les choses sont un peu mécaniques. Il y a quelque chose de la peur qui est beau et juste. Mais évidemment, pour comprendre cela, il faut distinguer la peur de la peur de la peur. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est qu'on a peur d'avoir peur. On a peur d'avoir peur et donc ça nous inhibe, ça nous empêche de faire les choses. Mais la personne qui est courageuse n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui a peur, mais qui décide, malgré sa peur, de traverser le danger. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que on a peur parce qu'on est un être humain qui a un cœur. Et du reste, en ancien français, pour dire courage, on disait cœur-âge. Et donc, il y avait dans courage le mot cœur. Et avoir du courage, c'est avoir du cœur. Et on a du cœur parce qu'on est touché. On a peur parce qu'on est touché, parce qu'on est humain, parce qu'on est vivant, parce que c'est pas toujours confortable d'être un être humain. Et donc, la peur, elle nous parle, elle dit quelque chose. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. C'est pas toujours agréable, mais il vaut la peine de pouvoir entendre ce que la peur nous dit. Et de vraiment pouvoir distinguer la peur de la peur de la peur.
Le dernier livre de Fabrice Midal s'appelle « Foutons-nous la paix ». Il a également écrit « Être au monde, 52 poèmes pour apprendre à méditer ». Vous trouverez les autres titres et les éditeurs de ces livres sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, nous allons parler du loup dans les livres d'enfants avec Michel Pastoureau. Nous saurons pourquoi le signe des musulmans est un croissant et celui des chrétiens une croix. Et comment une reine devient reine chez les abeilles.
Bonjour, je m'appelle Léonore. J'ai 9 ans, j'habite à Paris, dans le 20e, et je voudrais vous poser une question. Qui a inventé les panneaux solaires? Et depuis quand? Bye bye.
Bonsoir Éléonore, c'est Daniel Linco qui va te répondre.
Merci Léonore pour cette question. En fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire des panneaux solaires, elle remonte à, je crois que c'est dans les 1800, ça fait environ un peu plus de 2 siècles, avec quelque chose de très important qui nous entoure, c'est avec la découverte de l'électricité. Et en particulier, les travaux d'un grand savant italien qui s'appelle Alessandro Volta et qui a fait les premières piles électriques. Et en fait, il a donné son nom au volt et aussi au mot voltaïque. Mais il a fallu attendre 1939 et les travaux d'un jeune chercheur qui est un peu plus âgé que toi, mais il n'est pas très vieux, il avait 19 ans, à Paris, qui s'appelle Edmond Becquerel. Et lui, il a noté que le courant électrique qu'il y avait dans une pile faite par Volta, il pouvait changer quand on éclairait la surface, finalement des électrodes, quand il éclairait, il voyait un courant. Et ce phénomène, on l'a appelé l'effet photo, parce que c'était fait avec la lumière, photovoltaïque, et qui finalement associe les photons à l'électricité. Eh bien, on considère qu'Edmond Becquerel, c'est le découvreur de l'effet photovoltaïque, et donc, d'une certaine mesure, le père des panneaux solaires que l'on voit aujourd'hui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'était en 1839. Donc, en fait, pour qu'on arrive à faire des vrais panneaux très efficaces, il a fallu beaucoup plus longtemps.
Quand vous dites beaucoup plus longtemps, Daniel Linco, c'est-à-dire qu'on est en quelle année à peu près?
Alors, on est dans les années 50.
Plus exactement, même les années, le début des années 50. En fait, l'année où les premières piles solaires vraiment efficaces ont été mises au point, c'est l'année de ma naissance,
oh,
en 1954. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces cellules solaires modernes, efficaces, sont nées avec les chercheurs qui travaillaient sur l'électronique, donc sur les transistors qu'on trouve partout aujourd'hui dans les dispositifs, les iPhones, etc., etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand il y avait de la lumière, eh bien, ça produisait du courant électrique et ça produisait de l'électricité. Et alors là, bingo. Et en fait, ce qui s'est passé en 1950, dans ces années-là, c'est la conquête spatiale.
Ah, Spoutnik, c'est ça ?
C'est Spoutnik. Et en fait, le problème, c'est qu'on a su envoyer des satellites, mais le problème qu'on avait, c'est que les satellites, ils tournaient des semaines et des semaines et des semaines, mais il n'y avait pas moyen de les alimenter en énergie. Donc, résultat, ils contournaient, on mettait des sortes de batteries, etc. Mais très vite, le satellite, finalement, il s'éteignait de lui-même parce qu'il n'avait pas d'énergie. Donc, c'était un grand problème. Et donc, l'idée qu'ils ont eue, c'est de mettre des petites cellules solaires au silicium sur le satellite qui s'appelait Vanguard. Et en 1958, il a commencé à travailler. C'est là qu'on commençait la conquête spatiale. Il n'y aurait pas eu de panneaux solaires, de petites cellules solaires. Il n'y aurait pas eu de conquête spatiale. Regardez, la station orbitale, elle a des grands panneaux solaires. C'est la première chose qu'on voit. Les petits robots qui étaient Spirit, je crois, sur Mars, ils avaient des petits panneaux. Et le comble, alors là, c'est extraordinaire. L'année dernière, les panneaux solaires se sont posés sur une comète. Ils se sont posés sur la comète Chury avec Rosetta et Philae. Et en fait, on voit que les panneaux solaires, vous voyez, c'est une longue histoire. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les panneaux solaires commencent à descendre sur Terre, commencent à redescendre sur Terre. Et si. J'ai juste une petite chose que j'aimerais ajouter parce que je vous ai parlé d'Edmond Becquerel.
Oui.
Le père était assez célèbre aussi, Antoine. Mais le fils...
Ah oui, Antoine Becquerel. Ah, c'est pas le même.
C'est son père.
Ça y est, j'ai compris, il y en a deux, je comprends seulement maintenant. Je me suis dit, tiens, je pensais pas qu'il s'appelait comme ça au début.
Mais oui, mais c'est toute une famille. Antoine a fait... Son père est venu travailler au CNAM à Paris, et il a découvert le photovoltaïque, l'effet photovoltaïque. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a eu un fils, Henri. Et Henri Becquerel, c'est le père de l'énergie nucléaire. Donc vous rendez compte, la famille est extraordinaire, parce que finalement, le père... Edmond a découvert une énergie majeure qui commence à se développer aujourd'hui, qui est l'énergie solaire, photovoltaïque. Et le fils, le Becquerel, c'est une unité de radioactivité. Donc il est associé à tout ce qui est énergie nucléaire. C'était quand même une famille
surprenante. Et le Becquerel d'Écurie, c'est qui ?
Ben c'est lui.
Le Becquerel d'Écurie, c'est Henri Becquerel, qui a reçu le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie. Marie Curie, c'était quand même la première femme à recevoir un prix Nobel. Et Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie, a elle-même reçu le prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric. Il y a quand même des familles qui sont fortiches. Fortiche aussi notre Daniel Linco, chimiste, spécialiste de l'énergie solaire, qui a reçu la médaille d'argent du CNRS, où il est chercheur. Il est également enseignant à l'École nationale supérieure de chimie de Paris.
Oh,
C'était Chris Isaac, Baby Dead Bed Bed Sing.
Les petits bateaux sur France Inter.
Connaissez-vous le livre CD pour enfants Le Retour du Loup? C'est une sorte de suite de Pierre et le Loup, coédité par Helium et les éditions Radio France. C'est un conte imaginé par Nicolas Vanier sur une musique d'Alejandro Marqueas, qui a un accent absolument charmant et merveilleux, raconté par le comédien François Morel et interprété par l'Orchestre National de France.
Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 4 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi dans les livres d'enfants, le loup est souvent présent. Merci, au revoir.
Michel Pastoureau, vous avez écrit, édité au Seuil, ce très beau et passionnant livre « Bestiaire du Moyen-Âge » et vous y évoquez le loup.
Oui, et au Moyen-Âge, on a très peu peur du loup. Ce n'est pas un animal méchant ou cruel, c'est un animal plutôt ridicule. Au Moyen-Âge, on a peur du dragon, on a peur du diable, on a peur de l'ours, mais pas du loup. La peur du loup, c'est une idée plus moderne. Cela vient de ce que les animaux très cruels, soit n'ont pas existé en Europe, comme le lion ou la plupart des fauves d'Asie ou d'Afrique, soit comme l'ours qui peu à peu a disparu et est devenu très très rare. Donc à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle, le seul animal dont on avait peur en Europe, c'était le loup. Et il a fait l'objet de nombreux contes et légendes qui, au XIXe siècle, ont commencé à prendre place dans le livre pour enfants. C'était lui l'animal redoutable. Quelquefois, on le ridiculise, quelquefois, on le rend sympathique. Mais on ne pouvait pas puiser dans un bestiaire indigène, plus diversifié, puisque les animaux cruels redoutés avaient disparu ou n'avaient jamais existé sur le sol européen. Donc il ne restait que le loup, et donc il est devenu la vedette de ces animaux qui font peur aux enfants.
Michel Pastoureau, vous qui avez également écrit un livre sur le noir, je me suis demandé si c'était pas parce que le loup était noir, parce que la vipère par exemple est plus dangereuse que le loup.
Oui, moi-même, j'ai beaucoup plus peur des vipères que des loups.
Bah oui.
Et j'ai été louveteau.
Donc c'était quoi votre nom ?
Mon totem.
Votre totem ?
C'était cachalot, mais parce que j'étais déjà un enfant relativement corpulent. Mais j'étais dans une sizaine, un groupe de 6, comme l'on disait, une équipe qui était celle des loups blancs. Et il y avait aussi les loups gris, les loups fauves, les loups tachetés, les loups noirs. Donc tous les loups ne sont pas noirs. Et au contraire, les loups blancs, évidemment, sont des choses rares. Et par là même, admirer et rechercher.
Ce que c'est mignon, j'adore imaginer les hommes quand ils étaient petits garçons. J'imagine Michel Pastoureau louveteau. Nous évoquions le noir, depuis Michel Pastoureau a également écrit « Rouge, histoire d'une couleur », édité au Seuil.
Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir pourquoi le signe des musulmans est un croissant alors que le signe des chrétiens est une croix. Merci, au revoir.
Merci Charlotte pour ta question. Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS, historienne, ethnologue. Charlotte demande pourquoi le signe des musulmans est un croissant alors que celui des chrétiens est une croix.
Alors, pour celui des chrétiens, c'est très simple. C'est une croix parce que ça renvoie à la crucifixion de Jésus, donc qui est mort sur la croix. Pour l'islam, c'est un peu plus compliqué, en fait, parce que ça ne renvoie pas à une doctrine ou à un événement. Ça renvoie tout simplement au fait que en Asie mineure et en Mésopotamie, le croissant de lune était un symbole qui était utilisé. Et ce symbole a traversé la Méditerranée avec les Phéniciens pour arriver à Carthage. Donc il est arrivé au Maghreb actuel. Et aujourd'hui, donc, on retrouve ce symbole du croissant de lune avec une étoile sur certains drapeaux de pays comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie. Mais en fait, à la base, ce n'était pas donc un symbole islamique et ça l'est devenu. On le trouve aussi sur le minaret des mosquées, par exemple. Donc, en fait, les musulmans ont opté pour ce croissant de lune pour avoir le pendant avec la croix des chrétiens. Voilà. Et alors ça se voit vraiment de manière très claire avec le croissant rouge qui est le pendant de la croix rouge, donc des réseaux humanitaires. C'est un réseau humanitaire musulman.
Est-ce que, Sabrina Merva, dans la religion musulmane, la lune est présente?
Alors, bien sûr, la lune est présente. Alors, bon, évidemment, on va trouver des références à la lune dans le Coran, bien sûr. Mais elle est surtout importante parce que le calendrier est important et qu'il faut voir la lune quand on change de mois.
Il faut voir la lune quand
voilà,
on change
oui.
de mois.
Ouais. C'est-à-dire, par exemple, pour quand on doit savoir quand commence le mois du Ramadan, il faut voir le croissant de lune.
Plus que le soleil, finalement.
Ah bon, le soleil, non.
C'est la référence, c'est
voilà,
la lune.
Voilà. Et par exemple, il y a aussi un calendrier qui est un calendrier lunaire.
Sabrina Mervin a écrit chez Flammarion une histoire de l'islam. Les abeilles sont très organisées socialement, comme nous le savons tous. Il ne serait pas aberrant qu'elles organisent des élections avec des petites enveloppes, des petits bulletins, des petits isoloirs, des petits rideaux, des petites urnes. Ben oui, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des émissions comme Les Petits Bateaux, pour éviter de dire n'importe quoi à nos enfants sous prétexte que ça nous fait marrer.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir comment une abeille devient reine des abeilles. Merci.
Merci Arthur pour cette question proposée à une spécialiste des abeilles, chercheur au CNRS à l'Université de Toulouse, chercheuse Aurore Avargues-Weber.
Bonsoir Arthur. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment un vote ou ce n'est pas non plus juste la première née de cette reine qui devient reine comme il se passe chez les humains. Mais les reines, donc ce sont les seules qui pondent dans la ruche. Donc on les appelle reines tout simplement parce que les premières personnes qui ont ouvert les ruches, enfin en tout cas qui ont pu le décrire, voyaient qu'il y avait tout un tas d'ouvrières qui tournaient autour de la reine parce qu'elles récupèrent les œufs, elles s'en occupent, elles soignent la reine, elles la nourrissent et donc ça donne vraiment l'impression de toute une troupe tout autour qui est voilà au service. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ça de la reine. Après, ce terme de reine porte un peu à confusion parce qu'elle ne décide rien du tout, cette pauvre reine des abeilles. Contrairement à ce qu'on voit un peu dans les dessins animés sur les fourmis ou sur les abeilles où la reine dirige. Là, non, la pauvre reine, ce qu'elle est tout simplement, c'est une pondeuse. Et donc, elle pond des œufs toute la journée et toute sa vie, mais ne prend pas de décision. Ce n'est même pas elle qui va décider de faire des futures reines ou non. En fait, la reine, la seule chose qu'elle peut décider, c'est est-ce qu'elle fait des garçons ou est-ce qu'elle fait des filles.
Elle le décide.
Ça, elle le décide parce que tout simplement, les filles vont avoir un papa. Donc elle, quand elle devient reine, avant de devenir reine, elle va sortir de la ruche, rencontrer tout un tas de mâles et elle va stocker les spermatozoïdes des mâles. Et donc ensuite, dans sa vie, lorsqu'elle veut faire une fille, une femelle abeille, du coup, elle va utiliser bien sûr son ovule plus un spermatozoïde.
Et donc, ça, c'est elle qui fait sa cuisine.
Et donc, c'est elle qui fait sa cuisine à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant pour la recherche, c'est que du coup, elle va garder les spermatozoïdes pendant plus de 10 ans. Et ça, nous, on ne sait pas faire sans les congeler. On aimerait bien savoir comment elle fait. Ah, mais oui. Pour l'instant, c'est un mystère. Et donc ça, c'est pour faire une fille. Et sinon, pour faire des garçons, et ben en fait, ce sont juste des clones d'elle-même. Elle n'utilise pas de spermatozoïdes, donc les garçons n'ont pas de papa. C'est juste donc l'ovule de la reine toute seule qui va donner des mâles. Et les mâles, en fait, ne savent pas faire grand-chose d'autre que se reproduire. Ils ne peuvent même pas manger tout seuls. Ils doivent être nourris à la béquée par les ouvrières. Et donc, lorsqu'ils ont rempli leur fonction, donc les mâles, on les appelle les faux bourdons. Lorsqu'ils ont rempli leur fonction, à la fin de la saison de reproduction, en fait, ils meurent de faim parce que les ouvrières ne les nourrissent plus. C'est ce qu'on appelle le massacre des faux bourdons. Elles les rejettent hors de la ruche.
Mais en fait, ils ont fait leur job qui est d'assurer la reproduction.
Et donc, du coup, un mâle, c'est juste des gros yeux pour trouver la reine quand ils sont dehors. Ils vont voler très haut, trouver les reines très haut, aller se reproduire. Et ensuite, ils meurent soit au moment de la reproduction. Et s'ils n'ont pas réussi à se reproduire, ils vont être laissés, entre guillemets, pour mort, ne plus être nourris par les abeilles. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femelles ? Donc, les femelles, en fait, les ouvrières, lorsqu'elles construisent les petites loges où elles vont mettre les œufs, où la reine pond les œufs, elle peut faire deux tailles de loges, des petites ou des grandes. Donc, ce sont elles qui décident. Lorsque la reine pond une femelle dans une grande loge, les ouvrières ne vont pas nourrir ces bébés-là de la même façon. Donc, c'est les mêmes femelles, c'est toutes des sœurs. Elles sont exactement pareilles, elles ont les mêmes gènes. La seule chose, c'est qu'elles ne vont pas être nourries pareilles. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la gelée royale. C'est un aliment très riche que fabriquent les abeilles à base de miel, de pollen. Et ça, donc, tous les bébés abeilles vont être nourris de ça pendant quelques jours. Mais dans le cas d'une reine, elle sera nourrie beaucoup plus longtemps avec ça. Ce qui fait qu'elle a suffisamment d'énergie, suffisamment de nourriture riche pour fabriquer des gros ovaires, un gros abdomen et donc devenir une reine parce qu'elle sera capable de pondre avec des très gros ovaires bien développés, contrairement aux ouvrières qui ont des petits ovaires tout riquiqui. Et donc ces princesses, ces futures reines, lorsqu'elles émergent, s'il n'y a plus de reines dans la ruche, vont se battre entre elles pour choisir donc la plus forte qui va garder la ruche. Et si c'est la période de reproduction, et ben elles sortent de la ruche, rencontrer les mâles et donc fonder une nouvelle colonie.
C'est stupéfiant. D'abord, je me demande comment on fait pour voir des ovaires d'abeilles.
Ah, mais il faut les ouvrir.
Au microscope.
Au microscope. On les voit très bien parce que les ovaires sont très très blancs.
Et alors, deuxième chose qui est étonnante pour nous profanes, je pensais que c'est une femelle, la reine.
Oui,
on est d'accord,
oui c'est pour ça, le pont.
Mais je pensais qu'elle allait plutôt cloner des femelles et que c'est pour faire un mâle qu'elle allait avoir besoin d'un mâle.
Et je pense que du coup, il n'y a pas vraiment d'explication. Mon explication, c'est que les femelles ont besoin d'être, entre guillemets, beaucoup plus intelligentes, être capables de faire tout un tas de choses. Et le fait d'avoir à la fois des chromosomes femelles et des chromosomes des mâles, elles sont diploïdes. Elles ont deux allèles pour chaque gène. Et donc ça permet en général d'être beaucoup plus résistant, d'avoir beaucoup plus de fonctions que les mâles qui sont juste haploïdes. Ils ont une seule version de chaque gène, qui est la version qui vient de leur maman. Et donc, ils ont beaucoup moins de capacité de résister ou de faire tout un tas de... ils ont moins de complexité.
Les mâles ne savent que se reproduire et même pas faire à manger. Eh, nous sommes chez les abeilles, mon amour. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. C'était une rediffusion du 1er janvier 2017 à retrouver sur le site des petits bateaux qui reste ouvert tout l'été, contrairement au répondeur qui, lui, restera fermé jusqu'à la semaine prochaine. Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous sommes de tout cœur avec vous si vous êtes dans les embouteillages. Et pour vous consoler, dites-vous que si vous galérez pour rentrer, c'est que vous êtes parti.